André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur.
Bienvenue dans Théâtralité. Dans le cadre de notre série Les pionniers du théâtre amateur, nous sommes aujourd'hui à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, où nous allons parler de l'association La Renaissance de Saint-Marcel-les-Valences, et plus particulièrement de sa section théâtre à la compagnie Les Javaisans, où la passion du théâtre se transmet de génération en génération. Pour ce sujet, nous sommes en compagnie de Alain Perdriol. Bonjour Alain.
Bonjour André.
Alain, vous êtes directeur de la compagnie de théâtre Les Javaisans, coordinateur pédagogique de l'école de musique et de théâtre de l'association La Renaissance de Saint-Marcel-les-Valences. C'est bien ça?
Oui.
Merci d'avoir accepté de participer à notre émission Théâtralité. Alain, pour commencer, nous allons présenter rapidement l'association La Renaissance pour revenir plus précisément ensuite sur l'histoire de la compagnie de théâtre Les Javaisans. Alors, qu'est-ce que c'est que la Renaissance, musique et théâtre? C'est bien ça.
La Renaissance, musique et théâtre, c'est aujourd'hui. À l'origine, c'est pas tout à fait ça.
Ah.
À l'origine, c'est oui. Une fanfare qui a été créée en 1880, comme beaucoup de fanfares, fin du 19e, et qui ne s'est pas interrompue depuis, sauf pendant les deux guerres. Alors, cette fanfare, elle s'est arrêtée pendant la guerre 14-18, et dans les années 20, son activité a repris. Elle est devenue harmonie, c'est-à-dire qu'il y a eu des bois, c'était plus uniquement des cuivres, il y a des bois qui ont rejoint la formation, et ça s'appelle harmonie. Et dans ces années-là, c'était les années folles, c'était reparti vraiment très bien. Et là, déjà à ce moment-là, les musiciens, ils s'amusaient à faire des petites scénettes pendant leurs concerts. Il y avait un concert annuel qui s'appelait le concert offert aux mantes honoraires, qui existe toujours.
Toujours.
Un concert traditionnel. Mmh. Et dans ce concert, ils avaient un public captif, un public régulier, rural, et... Ben, à ce public-là, ils offraient un concert et ils montaient des petites scénettes. On ne peut peut-être pas appeler ça franchement du théâtre. Mais bon, c'était des chansons, c'était des sketchs, c'était des choses comme ça. Et puis, donc, il y avait déjà un petit peu d'activité théâtrale, ce qui n'est pas commun dans toutes les fanfares. Ensuite, il y a eu une autre création. Ils ont créé un groupe folklorique, les Mainteneurs du Dauphiné. Alors, avec une partie musicale et une partie rigodon, les danseurs du rigodon. Il y avait... une vingtaine de danseurs, il y avait une vingtaine de musiciens, c'est un gros truc, quoi. Et avec des costumes et tout, donc pour représenter le Dauphiné. Et ils sont allés dans les rassemblements de musique, pas populaire, de musique...
folklorique.
Folklorique, régionale. Et ils sont allés à Vichy, ils sont allés à Nice, participer à des... Donc c'était un truc assez extraordinaire. Voilà, n'allons pas plus loin.
Oui.
Ça continue, et après... Dans les années 30, ce sont des instituteurs, dont André Blanc, qui ont commencé à s'occuper un petit peu de la partie théâtre, notamment pour les jeunes. Ils avaient des jeunes, donc ils ont commencé à s'occuper un petit peu, à former des gens un petit peu au théâtre. Et André Blanc, ben, notamment André Blanc, ça a été un résistant qui a été fusillé à Saint-Marcel-les-Valences, instituteur. Est arrivée la Seconde Guerre mondiale, donc l'activité s'est interrompue. Et après la guerre, mon père, qui était déjà sociétaire et qui faisait partie et de l'harmonie et des mainteneurs du Dauphiné, et qui faisait aussi un peu de théâtre. Donc, après la guerre, un peintre, Émile Apostoli, qui avait fait les Beaux-Arts à Lyon, a envie de s'intéresser au théâtre à Saint-Marcel-les-Valences. Il rentre à la Renaissance pour s'occuper un peu des comédiens, il a des projets. Et mon père, à ce moment-là, qui s'occupe un petit peu de théâtre... le rencontre, et ensemble, c'est là qu'ils créent la compagnie Les Javaisans. Alors pourquoi ils ont créé cette compagnie? Parce que Émile Apostoli...
Oui, alors c'était à quelle époque?
Alors là, on est en 1950.
50.
Après la guerre, bon, ça a commencé un peu en 47, 48, 49, tout ça, bon, là j'ai pas de détails, mais en 1951, la compagnie Les Javaisans est créée par Aimé Perdriol, papa, et Émile Apostoli. Voilà. Mais à l'intérieur de la Renaissance, l'harmonie, la Renaissance, hein, c'était la fanfare, harmonie, la Renaissance. Donc on crée, dans les statuts de la Renaissance, on crée un additif avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Les Javaisans.
D'accord, donc Les Javaisans, c'est une section de...
Oui,
on peut,
oui.
Peut
elle appartient à l'association La Renaissance.
La Renaissance.
Mais elle a une identité clairement définie en tant que compagnie de théâtre dans les statuts.
Voilà, donc on va parler un peu plus maintenant des Javaisans et son développement. C'est un peu ça, la naissance.
Alors là, c'est la naissance. Et Les Javaisans, pourquoi Les Javaisans? C'est l'ancien nom de Saint-Marcel.
Oui.
Saint-Marcel-des-Valences, c'est un ancien village gallo-romain, à l'origine, qui s'est appelé Javaisan. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça s'est même appelé Saint-Marcel de Javaisan, à une époque. Donc, Émile Apostoli, qui était féru d'histoire, a dit, la compagnie de théâtre, on l'appelle Les Javaisans.
D'accord. C'est là d'où vient le nom des Javaisans.
Alors, cette création-là... Elle vient de, ce peintre, d'Émile Apostoli, donc un artiste, c'était un vrai artiste. Mais c'était un rural aussi.
Mm-hmm.
Son père était paysan, et lui, il a été un peu aussi. Et il a fait les beaux-arts, et il a envie de faire du théâtre. Et aussi, il va commencer à peindre. Et il va faire une carrière de peintre par la suite. Et là, en prenant en main la création, enfin la compagnie Les Javaisans, il a de l'ambition. Il inscrit, sans en parler à personne, ni à mon père qui cautionnait un peu la partie organisationnelle de la troupe, il inscrit la troupe à la Coupe Léo Lagrange. La Coupe Léo Lagrange, c'était une rencontre de théâtre, d'accord, avec des finales, demi-finales, finales, et la grande finale, mm-hmm, à Paris au Théâtre Rochefort.
Donc c'était un concours de spectacle de théâtre.
De théâtre,
c'est ça. D'accord.
Alors, du coup, oui, mais c'est que pour rentrer dans ce domaine, il fallait être affilié à la FNCTA.
Ah oui, déjà.
Donc, du coup, Aimé Berdriol, eh ben, il a affilié la compagnie à la Fédération, mm-hmm, là, en 1951. On doit être parmi les plus anciens.
À l'époque, oui, certainement.
Et donc, il crée son spectacle avec des farces de Jacques Roux. Trois farces de Jacques Roux. Donc c'est un truc un peu de style moyenâgeux, enfin avec des costumes, des, mm-hmm, décors, et Émile Apostoli, ben, il fait les costumes, il dessine les costumes, il dessine les décors. Et les jeunes qui sont là sont adeptes, c'est des jeunes qui ont quoi, entre 18 et 20 et quelques années, et il y en a toute une ribambelle, ils sont une quinzaine, et, mm-hmm, puis il y a des filles, il y a tout, ils ont... Donc ils fabriquent les décors, ils fabriquent les costumes, et ils travaillent avec Émile Apostoli. Et ils montent ce truc-là. Et ben, ils vont jusqu'en demi-finale à Toulon, à l'Opéra de Toulon, où ils représentent leur farce. Et là, ils ne remportent pas de prix, mais ils sont quand même sélectionnés pour représenter le théâtre en milieu rural en finale à Paris.
Oui, bravo. Ouais, ils sont reconnus, c'est une reconnaissance.
Alors,
la troupe.
Apostoli est très fier, évidemment.
Ouais.
Et puis, tout le monde aussi, bien sûr.
Mm.
Alors... Bon, aller à Paris, en 1951, pour des filles de 18 ou 20 ans, c'était quand même pas très simple. C'était toutes des filles de paysans. Hein.
Mmh.
Donc, le père Perdriol, qui était paysan, lui aussi, est allé voir... C'était des collègues à lui, tous ces gens. C'était des paysans. Est allé voir les gens pour leur dire... Voilà, pour donner une garantie que bon, leur fille allait être mariée, mais que ça allait être accompagné et tout. Donc,
mmh.
Émile Apostoli, il pensait pas à tout ça, mais... Les filles ne seraient pas allées à Paris. Hein.
Ah, oui.
Donc il a fallu l'accord des parents et tout le bazar. Donc, et là, grâce à Aimé, ben, tout ça a pu se faire. Et ils sont allés à Paris.
Mm-hmm.
Voilà, donc ils ont fait monter le décor par chemin de fer. Le décor qui a été le chemin de fer pour aller au théâtre Rochefort. Et ben, c'est, mon père était arboriculteur. C'est un transporteur de fruits qui a transporté le décor de la gare jusqu'au théâtre Rochefort. Et pour le retour, d'ailleurs, c'est aussi le transporteur de fruits qui a ramené le décor à Saint-Marcel. Tu vois un petit peu les embrouilles qu'il y a pu y avoir.
Ça fait penser à l'époque de Molière.
C'était glorieux.
Ouais.
Et le retour à Saint-Marcel de cette manifestation, il y avait foule sur la place publique devant l'église pour accueillir la compagnie.
Ouais.
C'était un événement comme...
Un triomphe.
Quand tu as des événements,
ouais,
quand l'équipe de foot a été championne de France, ou un truc comme ça, il y a l'équipe de foot
en 89,
Saint-Marcel, qui a été championne de France. Voilà, grand événement.
Un événement. Donc ça, c'est les premiers pas, un peu,
voilà,
les Javaisans.
Glorieux.
Glorieux, oui, déjà. Parce qu'après, bon, ça s'est développé petit à
Alors,
petit.
Là, on est en 1951, 1952, 1953, Apostoli, là, après cette victoire, il a des ambitions encore. Il veut encore aller plus loin. Et alors là, ça ne marche pas. Parce que son ambition, elle n'est pas à la mesure de la renaissance de l'association, si tu veux, qui fonctionne avec des musiciens et tout, et qui trouve que tout ça, ça va aller trop loin, quoi. Donc, Apostoli est déçu, et du coup, il s'en va. Donc, ça a été un bon génie pour la compagnie. Ça a été le créateur, on peut dire, vraiment le créateur, directeur artistique pendant 2 ans. Et il est parti poursuivre sa carrière de peintre. Voilà.
Oui, il était et du coup, plus intéressé par la peinture que par le théâtre.
Oui, et puis si on ne le laissait pas faire ce qu'il voulait, ça ne l'intéressait plus.
Un véritable artiste.
Et l'association n'était pas capable de le suivre dans ses ambitions, que je ne connais pas exactement, mais ça allait être des trucs. Alors, ben, du coup, à ce moment-là, mon père et mes pères Driol connaissaient Pierre Stevenin, qui venait d'arriver dans la région. Il était ingénieur agronome et il venait d'arriver sur le domaine de Gautron, qui plus tard sera l'INRA, la station de l'INRA, mais à ce moment-là, c'était pas encore ça. Et donc, il vient travailler là à Valence avec la Chambre d'agriculture. Donc, la station de Gautron est pas très loin de chez nous, elle est à 1 km de chez nous. Donc, Aimé Perdriol fait la connaissance de Pierre Stevenin. Et quand Émile s'en va, il va voir Pierre Stevenin parce qu'il savait que Pierre Stevenin avait fait du théâtre avec Maurice Sarrazin au Grenier de Toulouse.
Oui, que nous connaissons bien à Toulouse.
Voilà. Et du coup, il va voir Pierre Stevenin en disant « Émile Apostoli s'en va, il faudrait que tu viennes. » Voilà. Et Pierre Stevenin vient.
C'est arrivé.
Donc en 1953, Émile Apostoli s'en va et Pierre Stevenin arrive avec aussi des idées, des projets. Et il va tout de suite écrire une pièce qui s'appelle « Les quatre saisons », qui sera jouée en 1954. Printemps, l'été, l'automne, l'hiver. D'écriture Pierre Stevenin, avec beaucoup de costumes, avec un truc très frais qui aura beaucoup de succès aussi, mais qui restera localisé à Saint-Marcel. Et environ. Et le dit Pierre Stevenin va être donc le directeur artistique jusqu'à son décès en 1996. Voilà, c'est-à-dire que pendant 40 ans cet homme a été notre maître à penser, a été notre directeur, mais notre maître à penser. Avec lui, il nous a formés, il a écrit, on a édité toutes ses œuvres dans un livre qui s'appelle « Mes récréations théâtrales ». Ça, on l'a fait, bien sûr, plus récemment, après son décès.
Et cet ouvrage existe en librairie ?
Donc il n'a pas été diffusé à une grande échelle, mais je pourrais t'en remettre un, éventuellement. Et on peut, effectivement, on en a encore des exemplaires s'il y a des gens que ça intéresse. Il y a des textes de théâtre, il y a ces pièces, il y a beaucoup de petits sketchs. Parce qu'on va voir, par la suite, je vais te dire que Pierre Stevenin, c'était un homme de théâtre, un vrai. Il a travaillé avec Sarrazin. Mon père avait travaillé avec Gabriel Monet à Bourges. Et on a eu l'occasion de travailler ensemble avec Jean Dasté.
Jean Dasté,
Saint-Étienne. Donc tout cela, tu sais que avec Jean Villard, c'est la décentralisation théâtrale.
Donc, et Maurice Sarrazin également.
C'est important, parce que on a été ensemencé par ça. Donc la compagnie Les Javaisins, elle est encore imbue de ça, de ce théâtre populaire.
Populaire, voilà. C'est une dimension importante. Voilà. Et alors, pendant ces 40 années, ça a évolué comment ? Enfin, ça s'est développé ? Il y a eu de plus en plus de comédiens qui sont arrivés ? De plus en plus de spectacles ?
Alors, oui, il y a toujours eu une manifestation qui ça ne s'arrêtait pas. Hein, ça ne s'est pas arrêté. Le spectacle annuel, concert-spectacle annuel, il a toujours continué, donc à une date précise.
Et jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à 5-6 représentations. Pour contenir tout le monde. Donc ça avait un succès local assez... Et tout de suite, la partie théâtrale, ça aurait été plus compliqué avec Émile Apostoli, mais avec Pierre Stevenin et mon père, qui est toujours là, mais qui fait, lui, l'intendance, on va dire, en quelque sorte. on va remarier la musique et le théâtre.
Mmh.
Et alors là, il va y avoir un orchestre qui va se former, Jeunesse et Variété.
Oui.
Et cet orchestre va accompagner des chanteuses qui vont chanter des chansons.
Mmh.
Et alors du coup, bah, les spectacles, ils vont être théâtre, musique, chanson. Dans les années 50, voilà, c'est déjà parti comme ça.
Et ça n'a pas changé. Depuis ce temps-là, ça n'a pas changé.
Ça continue encore comme ça.
Ça continue.
Voilà. C'est-à-dire que la mixité de la troupe, elle est vraiment depuis pratiquement l'origine.
Mmh.
C'est-à-dire théâtre, musique et chant.
Donc, ça, c'est l'identité qui est spécifique.
Oui.
Alors,
et qu'on essaie de continuer de préserver, bien sûr.
Oui. Et là, d'ailleurs, là, les membres honoraires, je crois que vous êtes en train de préparer le spectacle des membres honoraires qui va avoir lieu dans quelques temps.
Le week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche, trois séances, avec un orchestre de jazz qui fait partie de l'association La Renaissance et la compagnie Les Javaisards. Donc, on marie souvent les deux dans des spectacles communs.
Mmh.
Et il arrive aussi qu'on fasse une partie concert avec l'harmonie et une deuxième partie théâtre, purement théâtre, avec la compagnie Les Javaisards. Ça dépend des années.
Alors, on va parler des Javaisards maintenant d'aujourd'hui.
Les Javaisards d'aujourd'hui. Ben, voilà. Ben, on y est.
Vous avez à peu près combien de comédiens sur scène?
Là, actuellement, alors depuis le Covid, on était à 50 personnes pratiquement. Musiciens, chanteurs, acteurs.
Mm-hmm.
Plus techniciens, costumières, une cinquantaine de personnes.
Ouais.
On fait tout maison. Hein.
Ouais. Et ça, c'est assez extraordinaire, c'est remarquable aussi. Je crois que vous êtes donné beaucoup les moyens de construire des décors quand même qui sont assez... J'ai eu l'occasion d'assister à quelques-uns de vos spectacles, et en particulier la femme du boulanger, avec un décor qui était magnifique. Voilà, un décor tournant, le fournil qui revenait, puis la pièce, la chambre du boulanger. Enfin, c'était magnifique, digne de professionnel.
On peut pas dire. On essaye.
Ah oui.
Il y a quelqu'un qui dit que, de toute façon, souvent, quand on dit « Oh, mais on est amateur », c'est un peu pris comme une... Alors, ça peut être péjoratif. Pour nous, c'est pas péjoratif.
Ouais.
Mais quand tu parles de ça, « Ah, c'est des amateurs », il y a une connotation un peu péjorative, quand même.
Il faut le prendre dans le sens d'amateur, celui qui aime, et la passion.
Oui, mais enfin, on voit bien que quand on parle d'amateur, les gens ils disent « Oui, bon, ça va
oui. ».
D'un autre côté, nous, pour nous, être amateur... Ça n'a pas de sens. On doit faire le mieux qu'on peut. On doit être très professionnel dans ce qu'on fait. Alors on n'a pas le bagage ni le temps, on n'est pas de métier. Mais on doit avoir une exigence maximale.
De la rigueur.
Alors, pour en revenir un petit peu là où on en était resté, si tu veux, c'est que les différents dirigeants et de l'harmonie, la partie musicale, et de la partie théâtrale, qui se sont succédés, ont eu tous une exigence par rapport à la qualité des spectacles. Tous. Et une bienveillance, parce qu'ils savaient qu'ils manipulaient des amateurs.
Mmh.
Voilà.
Mmh.
Donc, c'est-à-dire, il fallait pouvoir... voilà. Alors, aujourd'hui, quand on dit c'est une association qui va avoir 130 ans, 150 ans... on dit, oh, c'est une vieille chose, quoi. C'est une vieillerie.
Avec toute la richesse de l'expérience accumulée pendant toutes ces années.
Si c'était les vieux qui avaient toujours le pouvoir, évidemment que ça serait une vieille chose et que ça serait peut-être un peu sclérosé. Ça ne l'a pas été, justement, parce que cette exigence des dirigeants, elle a toujours eu... D'une part, une bienveillance, ben, elle a toujours été très attentive à l'écoute des jeunes. Et du coup, ce n'est pas une vieille chose, parce qu'il y a toujours eu des relais.
Mmh.
Et les jeunes ont eu leur place quand c'était le moment.
Tout à fait. Et alors, à ce sujet, vous avez développé aussi un domaine de formation, les comédiens, avec des ateliers que vous avez mis en place. Et ça, alors, c'est arrivé à peu près à quelle époque?
Je refais un peu d'historique.
Un petit peu.
Dans les années 60, 70. Dans les années 70, on a eu Roger Chardavoine, qui était un homme de théâtre qui venait de la compagnie des Sept Couleurs à Valence. La compagnie des Sept Couleurs ferme une boutique. Donc, mon père a recruté un Roger Chardavoine, qui est resté où j'avais 10 ans. Et alors là, lui, c'était un spécialiste des pièces de théâtre. Ils ont monté des comédies, Porfirio, des comédies. Une par an aussi, donc pendant, ils ont monté une dizaine. Et là, il y a des gens qui se sont spécialisés un peu pour le théâtre. Et avec Pierre Stevenin, on continuait à faire des variétés.
Voilà. D'accord.
Et puis, à la fin des années 70, Roger Chardavoine est parti. Et on a continué à faire nos trucs un peu mixtes, théâtre et variétés. Et là-dessus, donc la direction avait changé de main. Enfin, c'est toujours Pierre Stevenin. Mais au niveau des responsables, mon père avait laissé la place à Monique Bérard, qui est décédée en 1990 à l'âge de 52 ans d'une maladie. Et c'est là que j'ai pris la direction, moi, en 90, de la compagnie. Mm-hmm. Et, mais en tant que gestionnaire, et en 1996, Pierre Stevenin est décédé. Donc j'ai remplacé Pierre Stevenin à la direction artistique. Également, donc depuis 1996. Voilà, tout ça pour te dire qu'à partir de là, on a continué la musique et théâtre, mais on est revenu aussi à monter des pièces de théâtre de qualité.
Mm-hmm.
Voilà.
D'accord.
Dans le temps.
Ma question était sur les ateliers. Vous, la formation que vous avez mise en place, elle date de quand ?
Alors, l'école de musique a été créée en 1965,
oui.
Et une école. Au décès de Monique Bérard, qui souhaitait créer une école de théâtre, on a créé cette école de théâtre parce qu'elle le voulait. Et elle n'a même pas pu le voir parce qu'elle est décédée. Mais du coup, Pierre Stevenin, qui était encore là, a ouvert un premier atelier de 14 adolescents, qu'il a tenu jusqu'en 96, date de son décès. Et moi, j'ai pris la suite également en tant qu'enseignant pour cet atelier de jeunes.
D'accord, et vous continuez.
Voilà, et alors là, ben moi je me suis formé aussi, parce que je n'étais pas formé pour ça, je me suis formé pour être enseignant, et j'ai développé l'école de théâtre, parce que l'école de musique s'était développée de ce côté, et là, d'un atelier, 10 ans plus tard, on est arrivé à 6 ateliers avec une cinquantaine d'élèves, voilà. Et 3 animateurs.
Voilà, et il y a tous les âges, il y a des enfants, des adolescents...
Surtout des enfants, des adolescents.
Adultes.
Les adultes, ça viendra plus tard.
Ça vient après.
Voilà. Donc on a formé des jeunes, voilà, tous les ans. C'est le Covid qui a mis un peu, là, on en reparlera après, qui a mis un peu la pagaille un peu dans tout ça. Ça, tout ça a été assez florissant.
Et parallèlement, alors, vous parliez du répertoire, vous avez commencé à jouer des pièces de théâtre.
Voilà, alors... Voilà. On a été de plus en plus exigeants sur nos prestations musicales, c'est-à-dire on s'est mis à écrire de la musique, voilà, les gens sont formés à chanter, etc. Mais du côté théâtre, on a eu de nouveau envie de s'attaquer à des œuvres théâtrales. Et là, bon, ben, il a fallu se former à la mise en scène, comme ça, donc, et on a, alors je ne pourrais pas te citer tout ce qui a pu être monté.
Oui, mais juste quelques exemples.
Ben, on a... En 2007, moi je sais que j'avais mis en scène Une bête sur la lune de Richard Kalinowski.
Oui.
Liliane a mis en scène Trois dames sur une île déserte de Gilles Habier.
Tu m'avais parlé du bal par exemple.
Alors, elle a mis en scène également Les vieux pères des... Il faut... enfin, une pièce de Carole Thibault, Les vieux pères au fond des bars, là. La montée de Le Voyer Equinox. On a monté des pièces de Allègre, notamment la pièce où l'avion se casse la gueule, Vol 2037. Voilà, des choses... Et tu me disais, le bal.
Alors, le bal.
Ça, c'est un couronnement, parce que on avait envie de monter ce truc-là. Et... En 2000, ça s'est fait en 2012, ça. Tu vois, donc on se rapproche. Et il fallait retrouver déjà l'origine. Donc je me suis mis en quête de retrouver l'origine. Et j'ai retrouvé Evelyn Love, l'assistante de Jean-Claude Pinchenat, qui avait créé le bal en tant que théâtre dans les années 80. Donc le théâtre du Campagnol à Paris. Et ils ont fait une tournée, ils ont joué une 300 fois à peu près en France avec ce spectacle qui avait été créé en regardant les gens danser. Mm-hmm. Donc, un spectacle sans parole, simplement avec de la musique et où on regarde et où on voit les scènes, mm-hmm. les choses qui se passent. Un travail passionnant mm-hmm. et qui met, moi ce qui m'a attiré là-dessus, ce qui met en valeur le rôle du corps dans le jeu du comédien. Mm-hmm. Bien mm-hmm. qui passe, à mon sens, bien avant la parole.
Tout à fait, c'est fondamental dans le théâtre, effectivement.
Donc, pour faire court, Evelyn Love nous a dit que de toute façon, les droits de Jean-Claude Pinchenat ne souhaitait pas donner les droits de ce truc-là. Bon, j'ai dit, bon, c'est mort, mais je lui ai dit, attendez, qu'est-ce que vous voulez faire? Et quand je lui ai exposé le projet, elle m'a dit, oh, mais ça m'intéresse, je vais essayer de convaincre Jean-Claude Pinchenat. Mm-hmm. Ce qu'elle a fait, on a continué à se voir, et ils nous ont aidés, ils nous ont filé tous leurs écrits, ils nous ont proposé un comédien, François Pic, qui avait fait partie de la création, qui est venu mmh. nous aider sur deux week-ends à faire mmh. ce travail, et j'ai mis en scène les... Alors, eux, ils avaient fait quatre tableaux, et Ettore Scola
oui,
a fait le film oui. global, où il a rajouté deux tableaux, mmh. et nous, quand on a monté nos spectacles, on a repris donc avec un de Ettore Scola, et on a rajouté deux tableaux qu'on a écrits, nous.
Remarquable.
Donc on a fait un spectacle gigantesque mm-hmm. avec 22 comédiens qui évoluaient, donc 22 parcours, si tu veux, mm-hmm. et les époques, il y avait 8 époques, donc 8 fois 2, 170-180 costumes.
Ah, ouais. Fabuleux, 170-180 costumes.
Merci Alain Perdriol. Nous reprendrons cet entretien sur l'histoire des Javezans au cours d'une prochaine émission. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Ce sont les amateurs, ceux qui aiment, ceux qui répètent des mois et des mois pour jouer une ou deux fois, ceux qui sacrifient leurs loisirs, ceux qui se penchent par plaisir et par passion sur nos textes, nos égos, nos émois, et qui nous rappellent que nous sommes non seulement contemporains mais vivants. Ceux qui, dans l'ombre, loin des médias, des stars, des colloques et des gloses, font circuler nos textes et nos convictions, pour peu que nous en ayons encore. Ce sont eux qui partagent et qui font partager. Elle est de Jean-Claude Grimbert. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone, 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.